France Culture. h13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Après Rester barbare, elle publie La grande méthode aux éditions de La Fabrique. Louisa Yousfi sera mon invitée à partir de 13h. Mais tout de suite, on garde les bonnes habitudes et on commence par la critique avec deux romans généreux au menu. Le trait de côte de Christophe Boltanski paru aux éditions Stock et Princesse de Kinga Wierzykowska aux éditions du Seuil. Vous écoutez les midis de culture et ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Et pour débattre aujourd'hui autour de la table, Virginie Bloch, l'aînée productrice à France Culture, critique littéraire et romancière, bonjour.
Bonjour Marie.
Johan Farber, éditeur, essayiste et critique littéraire, bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux.
Merci.
Perdu, la boîte qui contenait à l'origine des biscuits de la marque Gondolo devait l'être depuis une éternité. Elle renfermait un tas de vieux papiers. En haut de la pile se trouvait une feuille pliée en quatre, parcourue d'une écriture ferme, méticuleuse, déliée. La mise en page, soignée, rectiligne, ménageant des blancs comme pour faire entrer l'air, frappée par sa beauté formelle. Une marge à gauche, un passage à la ligne systématique des mots groupés en sections de longueur variable, débutant à chaque fois par une lettre majuscule. Pas de rime régulière ni de strophe, c'était des vers libres. Calligraphié à l'encre bleue, il courait sur les volets d'une page jaunie par le temps et piqué, çà et là, de petites traces d'humidité. Il ne comportait presque aucune rature. Ce n'était pas quelque chose de griffonné à la hâte, mais un travail abouti, du moins jugé comme tel, et retranscrit soigneusement avec la qualité d'un imprimé.
Le trait de côte qui donne son titre au cinquième roman de Christophe Boltanski, c'est celui de la pointe de Barfleur, dans le Nord-Cotentin. Un sentier qu'arpentait son arrière-grand-père, douanier de son métier, et taiseux à la Normande. En fouillant dans les tiroirs de la vieille maison, l'auteur et narrateur découvrent une photo de famille, prise à la veille de la Première Guerre mondiale, et cinq poèmes non signés. Commence alors une enquête sur cette branche maternelle de la famille de Christophe Boltanski, des Normands, terriens, dévoués corps et âme au général de Gaulle, comme il les décrit. On commence avec quelques mots d'abord, Johan Farber.
Bah écoutez, moi j'ai un avis très contrasté sur ce livre parce que d'un côté je trouve que c'est une belle enquête familiale, mais d'un autre côté je trouve que tout ce qui pouvait apporter de l'originalité comme l'enquête autour des poèmes, des cinq poèmes que vous évoquiez et dont on vient d'entendre la description, bah laisse un peu sur sa fin et on a l'impression d'avoir lu malheureusement beaucoup de fois ce récit.
Mmh. Virginie Bloch-Lenay.
J'ai un avis vraiment voisin de celui de Johan. Malgré les bonnes intentions de l'auteur, l'attention sympathique de l'auteur qui se met au travail à partir d'une bonne question. Il écrit « Comment écrire la biographie de quelqu'un présent dans la mémoire de personne ?» Je me suis ennuyée et j'ai aussi eu l'impression d'avoir lu ce dispositif et le résultat aussi et le portrait de ceux qu'il découvre beaucoup de fois.
Alors, Johan Farber, commençons par ce que vous avez aimé, peut-être.
Ce que j'ai aimé, c'est que moi, je suis... C'est un livre qui est quand même un cristal d'époque, c'est-à-dire qu'il est vraiment symptomatique de ce qu'on peut lire à la fois autour de l'enquête et d'une enquête qui s'organise autour d'une biographie, d'une généalogie. On est quand même dans un schéma assez connu, c'est-à-dire on arrive dans une maison, le narrateur arrive dans la maison familiale et dans cette maison familiale, on vient de l'entendre, il y a une boîte. Dans cette boîte, il y a deux types de souvenirs, à la fois des photographies et puis, là c'est le caractère un peu plus original, des poèmes dont on va chercher effectivement qui en est l'auteur ou l'autrice, des vers libres comme il a été dit. Et à partir de là, se met en branle une enquête, mais qui très vite ne tourne malheureusement pas autour des poèmes, mais va égrener en fait tous les spectres de la maison hantée. Et donc on retrouve malheureusement un petit peu des attendus comme l'enquête généalogique, l'enquête muséographique et puis l'archéologie de soi. Le récit est divisé en 12 stations, comme on dit en archéologie, c'est-à-dire 12 fouilles qui sont pratiquées. Et si l'auteur parle, je cite, d'une épopée topographique, en fait, très vite, on aboutit à des choses qu'on connaît déjà. C'est-à-dire qu'il ramène en fait ces aïeux à des figures qu'on connaît, c'est-à-dire le taiseux ou le douanier. On retombe un peu sur des clichés, c'est-à-dire l'émancipation républicaine, le travail par les études, la méritocratie. Et à partir de là, en fait, on se demande s'il s'agit d'un destin personnel ou s'il s'agit d'un destin national. C'est-à-dire, est-ce que Boltanski a voulu raconter finalement le destin de sa famille ou est-ce qu'il a voulu faire davantage une sorte d'histoire politique de la France tout au long du XXe siècle. Malheureusement, je crois que c'est la première option qu'il a retenue. Et c'est honnête, hein, c'est assez dur de dire ça, c'est honnête. Mais c'est honnête comme travail, mais voilà, c'est un livre qui arrive après La Maison Vide de Laurent Mauvigné et qui n'est pas du tout copié. Je pense que ça a dû être écrit simultanément. Je pense qu'il n'y a pas de question, il n'est pas cette question-là. Mais ça fait partie d'une espèce de synthèse de l'époque. Je pense que dans quelques années, quand on se demandera comment on écrivait en 2026 ou dans les années 20, ben on regardera ce livre et on y retrouvera tous les éléments qui déterminent le champ, enquête, famille, photo, voilà.
Virginie Bloch-Lainé, est-ce qu'il est piégé par son dispositif ?
Je ne sais pas, mais son dispositif, oui, mais il aurait pu en faire quelque... Enfin, je ne sais pas s'il aurait pu en faire quelque chose d'autre. Je ne sais pas si les personnages se prêtent à quelque chose de merveilleux, mais ce qui est, de merveilleux, de profond, ce qui est difficile aussi, c'est qu'il arrive après La Maison Vide et il arrive après La Cache du même Boltanski, Prix Femina 2015, qui était un livre remarquable.
Sur la branche paternelle.
Sur la branche paternelle, où il décrivait un phalanstère familial, une paranoïa, enfin, une des raisons véritables de se cacher, mais ensuite une paranoïa, puis une façon de rester collés les uns aux autres dans cette famille. Il le décrivait très bien. Donc là, c'est compliqué. Il écrit un moment par peur de rester court. Et au début du livre, à plusieurs reprises, il pose beaucoup de questions, comme s'il n'arrivait pas à commencer le livre, comme s'il n'arrivait pas à s'y mettre, et qu'il cherchait une piste. J'ai pensé à un livre remarquable d'Alain Corbin, le Monde perdu de Louis-François Pinago, qui a un livre qui a fait école, qui est sorti en 1998, où l'historien écrit sur quelqu'un dont on ne sait rien, et c'est passionnant. C'est un sabotier de la fin du 19e siècle, qui était analphabète, donc il n'y a pas de traces, et c'est passionnant. Là, il y a des traces, il mène l'enquête, il fait beaucoup d'efforts, il se déplace dans la Creuse, dans un ancien sanatorium. Mais ce qu'il découvre, on le connaît en effet, l'histoire de la méritocratie républicaine, Célestin Freinet, une femme de sa famille est devenue institutrice. Elle a été en contact avec l'école de Célestin Freinet dans l'arrière-pays niçois. Tout ça, maintenant, depuis quelques années, ça fait pas très longtemps. Donc, je comprends qu'il exploite tout ça. Mais ce sont des figures qui ont été remises à l'honneur.
Ah oui, mais c'est des figures quand même qui pourraient être intéressantes. Effectivement, ces figures de femmes, par exemple, Yvan Farber.
Eh bien, ces figures de femmes, on voit une militante communiste, Marguerite Joubert, qui est présente effectivement dans le livre, qui pourrait apporter un petit peu de vigueur au récit. Mais le problème, c'est que ça ne prend pas. Comme le disait très bien Virginie, ça ne prend pas. Il est piégé par ce dispositif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il pose des questions paradoxales qui sont déjà datées, si j'ose dire. C'est-à-dire faire parler un récit muet. C'est-à-dire des paradoxes de cette nature-là, une biographie sans mémoire. Voilà, donc tous ces paradoxes-là, ils ont déjà été posés. Et quand on regarde les trois épigraphes qui ouvrent le volume, que ce soit Walter Benjamin, Melville ou Pirandello, on se dit que quand même le savoir qui est à l'œuvre ici est un savoir qui va être dans une exploitation peut-être un petit peu scolaire de la modernité. Et il y a quand même un côté cahier d'écolier. Alors, il y a de très belles descriptions, par exemple, de la topographie du lieu, de la topographie du chemin des douaniers. Là, je trouve que le livre trouve une vigueur qui manque véritablement, en fait, au portrait des personnages qui sont, il faut le dire, un peu plat, avec une absence de dramaturgie, c'est-à-dire qu'on a une linéarité dans le développement, et toujours avec ce dispositif très contemporain d'avoir deux pôles de narration, c'est-à-dire on est dans le passé, et puis moi je chemine dans le présent et je découvre, et ces deux fils narratifs concurrents qu'on retrouve dans beaucoup de romans, ben ici ne parviennent pas en fait à tisser quelque chose, et s'effilochent au fil de la lecture, et on doit bien dire que lorsque l'on achève le livre, eh bien on en est au point de départ du livre, c'est-à-dire qu'on n'a pas appris grand-chose.
Et Christophe Boltanski, sur ce chemin, qu'est-ce qui lui arrive ?
C'est un livre de confinement. C'est pendant le confinement qu'il découvre cette boîte. Donc il ne lui arrive pas grand-chose. Il va se déplacer après le confinement pour enquêter, mais il ne lui arrive pas grand-chose. Il ne mêle pas à ses découvertes ses sentiments. Par exemple, il évoque le caractère neurasthénique. Il dit que ce mot était sans doute daté quand il l'entendait de son arrière-grand-père, Ernest Clouet. Il écrit, c'est joli, que c'était un homme givré. Un un homme dépressif qui petit à petit s'est laissé aller, qui était heureux d'être fonctionnaire, qui était attentif à ce qu'il avait à faire, mais un homme sans doute dépressif. Et il dit sans doute que ça a été transmis à ma mère, qui, après avoir été très engagée pour la décolonisation de l'Algérie, est devenue paranoïaque et elle-même neurasthénique. Mais il n'en fait rien, il ne tire pas ça, il n'y a pas de... Un manque peut-être d'introspection, de vraie introspection, puisqu'il se met dans le décor. Là, j'ai l'impression qu'il se met artificiellement dans le décor, comme si l'éditeur lui avait dit « il faut te mettre toi aussi, il n'y a pas que la recherche. Maintenant, c'est ce qu'on aime bien que l'auteur apparaisse dans le livre. » Donc, il ne lui arrive pas grand-chose. Il parle un petit peu de ses filles. Il parle de quelque chose qu'il aurait peut-être pu exploiter. C'est que, il l'exploite un peu sur... Il constate que son arrière-grand-père avait sans doute une préférence pour les filles, ses filles, par rapport aux fils. Ça, c'était rare. Au début du XXe siècle, il n'en fait pas grand-chose. Il suppose que peut-être le fils n'était pas le fils légitime. Mais... Il lance beaucoup de pistes, il y a énormément de fils tirés, et on reste un peu à plat.
À plat, alors que Boltanski nous a effectivement habitués à des livres beaucoup plus forts, que ce soit Le Guetteur ou La Cache. Et je pense que ça m'a fait penser, quand je le disais, je me disais quand même, c'est parfois un peu inégal, ça m'a fait penser à cette phrase de Serge Danet qui disait « Une œuvre commence à partir du moment où il y a un livre ou un film qui est inégal ». Et là, je pense que ça fait partie d'un chemin d'écriture et que cette œuvre est un peu moins intense que les précédentes, mais c'est faux de dire que, enfin en tout cas à mon sens, c'est faux de dire que c'est un mauvais livre, c'est pas un mauvais livre, mais on reste sur sa fin par rapport à ce qu'il avait pu développer dans d'autres ouvrages.
Un dernier mot.
Oui, il y a par exemple, il y a des parties documentaires intéressantes sur l'école normale d'institutrices. C'est le bagne, c'est une prison. Il écrit que c'est une secte laïque. Ça, c'est intéressant, mais ça ne tient qu'en deux pages. Donc, il y a des morceaux comme ça, documentaires. Quel était le travail d'un douanier, voilà. Mais bon... Ça reste bref.
Le trait de côte de Christophe Boltanski aux éditions Stock. Et c'est l'heure de votre coup de cœur, Virginie Bloch-Lenné.
Oui, c'est un livre qui est sorti le 20 février aux éditions du Portrait. Un livre écrit en 1972 par une Allemande, Lotte Peipke, traduit pour la première fois en français. Il s'intitule « L'histoire de mon père, un petit marchand ordinaire ». Il raconte en une centaine de pages, sobrement, la vie d'un homme qui a connu les deux guerres mondiales depuis l'Allemagne et qui est mort en 1962. Il était le père de l'autrice, mais elle décrit très peu le père et l'époux qu'il était, afin de dessiner surtout cet homme de bonne volonté et vaillant, et de dessiner l'obsession qu'elle lui prête, être acteur de son existence. Il devient sous sa plume le héros d'un conte, et parfois on pense à certains livres, c'est moins magnifique, de Aaron Appelfeld. Max Meyer était juif, descendant de paysans, sa famille avait récemment acquis le droit de s'intégrer à la société allemande et de s'installer en ville, à Fribourg en Brixau. C'est à côté de la frontière suisse. Pour y vendre du cuir. Au début du XXe siècle, le petit marchand prend la suite de son père et il tire un trait ainsi sur son rêve à lui qui était d'être pianiste, mais on lui avait montré qu'il n'était pas suffisamment doué pour gagner sa vie comme pianiste. Il n'est pas suffisamment bon musicien. Il vit en bonne intelligence avec les chrétiens qui sont ses voisins. Et ça, on sent que c'est très important pour lui. Il aime la femme qu'il a épousée, c'est sa joie de vivre, Olga, avec laquelle il a deux enfants. Mais dès le début, on devine que cette harmonie ne tiendra pas. On devine, grâce à une économie de moyens, et non pas... C'est une économie de moyens qui travaille l'implicite, grâce à l'écriture entre les lignes, que l'équilibre cherché par cet homme, désireux de trouver sa place dans la société, est précaire. Contrairement aux autres pères, écrit la fille, c'est le seul moment où elle parle d'elle, de lui, par rapport à d'autres pères, et donc comme père de famille, d'autres pères qui dégagent de la protection, qui avancent en fendant l'air. Cet homme de petite taille ne fend pas l'air, et elle comprend que c'est elle qui doit le protéger. Il lui a été confié. La Première Guerre mondiale arrive, le marchand se sent appelé à défendre de toutes ses forces la patrie allemande. Enfin, il n'est plus le juif, mais le patriote, l'allemand, il est prêt à se sacrifier. Après la guerre, il s'engage en politique, il est social-démocrate. heureux de pouvoir réfléchir lors de ses réunions politiques, parce que, à son goût, son métier de négociant en cuir ne lui permet pas suffisamment de faire travailler son intellect. Il construit sa vie comme un solide édifice, mais sans jamais gonfler le torse, sans jamais se hausser du col. Il se sent appartenir à une collectivité, à un Heimat, un pays symbolique qu'il porte en lui. Il surmonte l'inflation des années 20, puis dans les années 30, il est arrêté pour son engagement socialiste. Il est relâché, mais un jour, un homme vocifère devant sa boutique « N'achetez pas chez les Juifs ». Le contexte historique est évoqué seulement par quelques balises. Il y a très peu de noms propres, très peu de dates dans le texte. Le marchand est dépossédé de son commerce et c'est son employé qui en devient propriétaire. Il est arrêté, le marchand, envoyé à Dachau, relâché miraculeusement. Des gens prospères de sa famille lui donnent de l'argent pour qu'il aille se réfugier avec sa femme en Suisse, près de Zurich. Là, il n'a pas le droit de travailler. Et sa fille, l'autrice, écrit que ce faste irréprochable de la Suisse lui est insupportable. Il rejoint New York en bateau avec sa femme. Là, il est frêle, il devient coursier. Et ce n'est pas du tout la ville debout que décrit Céline. Quand il entre chez les gens à l'occasion de ses livraisons, il trouve les Américains avachis. Il leur trouve quelque chose de grossier et d'inerte dans leur façon de s'exhiber. Là encore, elle esquisse seulement le décor et les faits. Max Meyer ressemble à l'homme qu'il marche, sculpté par Giacometti, et les New-Yorkais à des personnages de Sempé entassés les uns sur les autres, vociférants, inattentifs, inactifs. La tenue, la verticalité qui va avec le sens du devoir et avec la civilisation est l'un des motifs du livre, et elle est le signe physique et moral distinctif du marchand. Mais la civilité du vieux continent n'a pas que du bon, elle a un revers. Après la guerre, le petit marchand rentre en Allemagne et il retrouve cette fausse civilité. Il se sent en miettes et l'autrice décrit très bien cet émiettement. En miettes parce qu'il a fait partie de cette Allemagne devenue nazie.
Merci, c'est l'histoire de mon père, un petit marchand ordinaire de Lotte Pepke, traduit de l'allemand par Frédéric Laurent aux éditions du Portrait.
Le menu du jour pour ces dames, un jambon puré de qualité exceptionnelle. Le paradis à portée de bouche. Vanessa pose la barquette sur la table avec cérémonie. Tadam ! D'un geste sec, avec les ciseaux de cuisine avec lesquels elle tranche le poulet rôti du dimanche, un rituel, elle coupe l'emballage. Vous m'en direz des nouvelles, mesdemoiselles. Les gamines, ravies, observent leur mère. Ses mouvements précis, la gravité dans sa voix, sa concentration gourmande. Ce n'est plus leur mère d'ailleurs, c'est la patronne. La chef d'un grand restaurant, qui avec déférence détache l'opercule comme on soulève la cloche au-dessus d'un mérard pour des clients d'exception. Mesdames, servez-vous. Une main s'approche du paquet, hésite, se ravise. L'autre la supplante, mais idem, recule, intimidée. Alors, vous n'osez pas ? Vous le méritez, mesdames, vous le valez bien. Allez-y, après, vous pourrez même reprendre. Mais maman, ce n'est pas du jambon. C'est un doigt. Un doigt d'honneur, tout rose.
On enchaîne donc avec Princesse, le deuxième roman de Kinga Wierzykowska, autrice franco-polonaise très remarquée, avec Patte Blanche, publiée en 2023. Cette fois, elle livre un récit à mi-chemin entre la dystopie féministe et le conte satirique. Princesse, c'est le petit nom du lapin que reçoit Barbara pour son anniversaire. Au début du roman, Barbara est une jeune parisienne cadre dans l'agroalimentaire. Elle tombe amoureuse d'un plombier polonais, évidemment, et plaque tout pour le suivre jusqu'à son village natal, en Pologne donc. Et dans ce village, les curés font la loi et le voisinage n'attend qu'une chose, que Barbara enfante. Enfin, quelques mots d'abord, Virginie Bloch-Lenné.
C'est un livre brillant, d'une grande inventivité. Il y a une langue, il y a une écriture. Elle fonce à bride abattue. Elle a un goût des punchlines. J'ai parfois pensé à Maria Pourchet. J'ai aimé la première partie qui se passe en France. La seconde, non. La satire tournait un peu à vide pour moi.
Johan Farber.
Ah ben moi, j'ai été totalement enthousiasmé par ce livre, qui est vraiment une satire des mœurs contemporaines. C'est aussi un roman antifasciste et un conte queer très, très, très déroutant et totalement jouissif.
Virginie Bloch-Lenné.
Alors, oui, la première partie est drôle. Ce coup du doigt d'honneur est formidable. Elle avance très vite, mais cependant, elle dit beaucoup de choses. Donc, la première partie présente l'héroïne, Barbara Lys, qui élève seule ses
qui
filles.
Qui porte bien son nom.
Qui porte bien son nom, quoique, en fait, elle en a sous le pied, Barbara Lys. Contrairement, sa mère était née en Pologne. C'est quand même une forte femme. Elle est cadre dans cette entreprise d'agroalimentaire et elle est chargée parce qu'elle fait tout bien, Barbara Lys. Elle est chargée d'enquêter sur ce doigt d'honneur. Et le va-et-vient entre le domicile, les impressions de Barbara Lys, la réaction de l'entreprise et le coup réussi par les ouvrières, vraiment. Très bien fait, ça c'est hilarant. Et la langue, il y a des punchlines à la Maria Pourchet. La vie, c'est être chienne. Enfin, elle balance comme ça. Elle a une inventivité, elle a une écriture. Ça marche très bien dans la deuxième partie qui se passe en France. Elle tombe amoureuse d'un plombier polonais. Je trouve que la scène d'amour est érotique et très réussie, ce qui est très difficile. C'est ensuite, lorsqu'on part en Pologne, que c'est moins bien. Très réussi aussi les clichés sur la Pologne, puisque c'est un livre sur l'Europe. Les clichés sur la Pologne qu'ont les Français. C'est une page admirable.
Johann Farber.
Ben moi, j'ai trouvé effectivement que c'était très enthousiasmant et puis qu'il y avait effectivement un sens de la punchline. Il y a par exemple, on n'est pas là pour s'emmerder, vive la fête. Voilà, et c'est exactement le ton de ce livre. Ça pourrait être son aphorisme, puisqu'elle définit à un moment donné une sorte de révolution joyeuse. Et cette révolution joyeuse, moi, elle m'a fait plutôt penser, en fait, à Nathalie Quintane. Je trouve qu'il y avait vraiment des choses à la Nathalie Quintane dans cette espèce de distance un petit peu flottante et ironique, notamment sur toute cette partie étonnante effectivement et déroutante qui se passe en Pologne et qui moi m'a fait penser en fait à une lecture polonaise en fait de la littérature. Ça regarde du côté de la fantaisie de Gombrowicz mais aussi du côté d'Uberois. Faut pas oublier que Uberois c'est le roi de la Pologne et Uberois c'est n'importe quoi en fait comme la deuxième partie polonaise. Et moi ce qui m'a vraiment beaucoup frappé c'est la manière dont effectivement petit à petit s'élaborait à la fois un roman antifasciste, c'est-à-dire que ce lapin, enfin cette lapine princesse, qui n'est pas finalement une femelle, mais qui serait un homme, et qui serait en même temps pas seulement un homme, bref, il y a quelque chose qui est assez intéressant dans la manière dont ce lapin finalement allégorise une sorte d'angoisse finalement du village dans lequel ils se sont établis en Pologne. Et ce lapin qui n'a pas véritablement d'existence animale ni réaliste, il grossit, enfin il commence à avoir un pelage, enfin ça n'a, en ressemblant à un homme, ça n'a absolument aucun sens. Et là, on se dit que c'est peut-être une belle allégorie pour toutes les angoisses qui se cristallisent, les angoisses fascistes. À un moment, là, cette expression que j'ai faite mienne depuis, hein, le patriarcopate fasciste, voilà. Donc elle arrive dans ce village de patriarcopate fasciste et à partir de là, princesse est un peu mise à l'index et puis parallèlement, toutes les identités se déclinent. On disait, ah oui, Barbara Lys, elle est peut-être lisse. Alors effectivement, c'est le début. On nous dit, il y a des phrases solitaires dans un chapitre, c'est « Barbara est une femme sans caractère ». Quelques pages plus loin, Barbara Lys est une chaudasse. Voilà. Donc, il y a des mutations identitaires permanentes, en fait, qui rendent la lecture déroutante et véritablement enthousiasmante. Et c'est ce que la littérature peut produire de mieux pour questionner notre époque et le fascisme, c'est-à-dire s'interroger, non pas dans un roman politique lourd, mais faire politiquement de la littérature. Et là, c'est ce qui m'a, vous l'entendez à mon ton, totalement enthousiasmé.
Virginie Bloch-Lennès, la deuxième partie était plus difficile pour vous.
Oui, même s'il y a aussi Barbara, c'était pas non plus une lapine chaudasse bordel. Donc il y a des.
Mais où se place le narrateur là d'ailleurs, c'est intéressant. Qui dit ça?
Je sais plus qui dit ça. Ah bah ça, c'est le narrateur. Bah
le narrateur, c'est la voix guide.
Qui défend plutôt Barbara. Ah, hein, elle est vraiment de son côté. La deuxième partie, j'ai trouvé qu'elle était plus lente. Voilà, il y a une telle rapidité, une telle vivacité dans la première que dans la deuxième, je m'ennuie un petit peu. La deuxième partie, en fait, le lapin a été offert
à Barbara pour son anniversaire.
Oui.
Voilà.
Mais ce qu'on attend d'elle une fois qu'elle est en Pologne, c'est qu'elle ait des enfants. Or, ça ne marche pas. Donc, le fascisme auquel se heurte ce couple franco-polonais, c'est l'obscurantisme. Enfin, c'est les catholiques.
C'est notre futur.
Oui, on ne sait pas de quoi notre futur sera fait, mais
c'est la réalité polonaise. Oui.
Voilà, c'est la réalité polonaise. Et là, j'ai trouvé que c'était assez convenu, même s'il y a un retour à l'envoyeur, c'est-à-dire qu'il y a une page sur les clichés polonais sur la France, qui est très bonne. Et il y a dans cette deuxième partie, et ça, moi, c'est ce qui a sauvé pour moi la deuxième partie, un QR code qui renvoie à un podcast. Et le podcast, c'est à la fois Striptease les pieds sur terre, mais aussi une parodie de Striptease et une parodie des pieds sur terre. Il est extrêmement bien fait.
C'est elle qui l'a fait ?
Ouais, c'est elle qui
l'a fait.
Elle
est allée enquêter, c'est ça ? Qu'est-ce qu'elle...
Tout est joué. C'est un vrai faux podcast. Mais c'est très bien fait. À un moment, il y a un Allemand qui parle. Le doublage, très sérieux, très bien fait. Elle a fait ça très bien. C'est pas un truc de potage.
Yoann Farbin.
Ah oui, non, c'est admirable et ça montre toute l'énergie de cette révolution joyeuse qui recourt effectivement à énormément de procédés. Et puis, je trouve que les deux parties sont en contradiction et volontairement en contradiction. C'est-à-dire que la première partie est extrêmement réaliste. Hein, tout ce qu'elle dit à la fois sur les cadres supérieurs, sur cette dirigeante Muriel Tarin, parce qu'elle a du nez, voilà, Tarin comme nez, et ce qu'elle dit aussi des ouvrières à l'usine de jambon, tout ça, c'est admirable. Et la deuxième partie, elle est volontairement non réaliste, mais justement, elle est beaucoup plus angoissante parce que tout le questionnement sur l'impossibilité de l'IVG, je l'ai trouvé extrêmement bien amené, sur les enfants malheureusement déformés qu'on est obligé de garder puisque l'IVG ne peut pas être pratiqué. J'ai trouvé que c'était assez beau et le tout enrobé de ce conte queer où Barbara devient d'un seul coup Barbe, elle est surnommée Barbe, où Pavel devient Bébel, il est belle comme Bébel. C'est son surnom. Donc tout est inversé et tout glisse progressivement. Il y a cette amie aussi qui est en transition, qui vient la voir, son meilleur ami. Donc il y a quand même une réflexion qu'on lit jamais, franchement, il faut le dire. C'est très anglo-saxon aussi dans la manière de questionner et ça rend vraiment la lecture totalement, je l'ai dit 20 fois, mais je le répète une 21e, totalement enthousiasmante.
Princesse, deuxième roman de Kinga Wierzykowska, publié, rappelez-le-moi, je ne l'ai pas
au seuil.
Voilà, très bien. Elle sera notamment présente à la librairie Folie d'encre au Perreux-sur-Marne le 11 mars à 19h. Je remercie Marceau Vassy et Anaïs Isebert pour les lectures du jour et je vous remercie, vous, Virginie Bloch-Lenné et Yoann Farber. On se retrouve très vite pour une prochaine critique littéraire. Vous qui nous écoutez, à vous de vous faire une idée, mais surtout, restez avec nous, on revient tout de suite.